Europe, y compris de la Belgique. Vous entendez l'argument, vous entendez la critique. Je vais vous demander à tous les trois qui représentaient des partis politiques, en 30 secondes s'il vous plaît, malgré ce que vous venez d'entendre, est-ce qu'il faut poursuivre ces sanctions plus déterminées que jamais? Mathieu Michel d'abord.
Moi je pense qu'il faut poursuivre les sanctions, je ne pense pas par contre que c'est la seule réponse. On se rend compte qu'aujourd'hui effectivement il y a vraiment une détermination de la Russie à vouloir déstabiliser quelque chose, il ne faut pas être naïf. Moi ce qu'on entend ici de l'ambassadeur me sidère en fait, j'ai l'impression qu'il nous prend pour des imbéciles en fait tout simplement. Donc je pense que par rapport à ça on doit clairement avoir une Europe qui prend conscience de sa force. L'Europe est une grande puissance et donc nous en tant qu'État on doit contribuer à cette grande puissance et ne pas se laisser faire.
Anne-Lambla.
De sanctions qui doit être pris bien entendu par la Commission européenne. Il s'agit donc d'utiliser des avoirs russes gelés et de les réinjecter dans la défense et peut-être aussi en Ukraine. Il faut trouver de l'argent et on doit le faire. Et les sanctions, elles doivent être appliquées en relations internationales et en droit international. Il y a un principe hyper basique. C'est celui de la cohérence. Et quand on applique des sanctions à un État, il faut le faire de la même manière pour finalement tous les États qui violent le droit international selon la gravité et le degré de gravité légale de l'infraction qu'ils mettent en œuvre. Et donc moi, parfois, et je tenais à le dire ici, je regrette de voir à ma gauche des gens qui se précipitent pour mettre en place des sanctions légitimes à Israël, mais qui ne le font pas pour la Russie. À ma droite, d'autres qui se précipitent pour mettre des sanctions pour la Russie, mais qui trouve que ce n'est pas forcément nécessaire pour
les sanctions, il faut les poursuivre. Les manières, vous avez entendu le terme de l'ambassadeur, il parle de vol. Vous en pensez quoi? Ça ne vous impressionne pas? Ça, c'est ce que vous allez me dire. Est-ce qu'on doit continuer ce paquet de sanctions?
C'est pas que ça ne m'impressionne pas. Ça fait partie de cette loguerie de désinformation complète. Mais trois chiffres, si vous voulez. La Russie, c'est 140 millions d'habitants. L'Ukraine, parce que c'est quand même en soutien à l'Ukraine qu'on agit également, 45 millions d'habitants, et la Russie n'arrive pas à envahir, et heureusement, l'Ukraine. Mais l'Europe, c'est 500 millions d'habitants. Donc le débat, il est vraiment européen. Quand l'Europe montre sa force, les muscles, et je ne parle pas que d'une force militaire, je pense que ces sanctions, effectivement, eh bien on finira par aboutir à une paix forcée. Il n'y a pas d'autre solution pour nous protéger. Mais si 500 millions d'habitants ne sont pas capables de se souvenir qu'ils sont européens, alors ils ouvrent le flanc évidemment à des territoires et surtout à des pouvoirs comme ceux de la Russie qui sont parfaitement autoritaristes pour ne pas dire autre chose.
Jusqu'où ira la Russie, d'après vous? On vous a posé la question avec évidemment ces rapports qui indiquent qu'il y aura un passage à l'acte dans pas longtemps, et on vient d'entendre Joseph Enrotin nous en toucher un mot. On peut montrer cette question, jusqu'où ira la Russie? C'est important d'avoir évidemment vos votes, le voici. D'après vous, quel est le but poursuivi par la Russie? Ce serait d'abord de déstabiliser l'Europe, on en a parlé, et puis ensuite pour 13% d'attaquer l'Europe. On a été un peu surpris par les résultats qui ont été donnés, d'autant que tout le monde n'est pas de cet avis, et pour certains pensent très fermement que le but ce sera d'abord d'attaquer l'Europe. Regardez la déclaration qu'on a sélectionnée pour vous aujourd'hui. Il s'agit du commissaire européen à la défense. Les services allemands affirment avoir des preuves que le Kremlin envisage une attaque contre l'OTAN. Nous devons prendre ces signaux très au sérieux. On a interrogé Théo Franken là-dessus depuis la Californie. Écoutez sa réponse.
Il y a une grande menace venant de la Russie. Hein. La guerre en Ukraine, on voit une guerre hybride avec des cyberattaques, des attaques cyber. On voit les drones, on a vu les sabotages aux mers baltiques. Bon, c'est clair qu'on n'est pas dans une situation de paix, ni dans une situation de guerre, full war. Mais nous sommes dans une situation de crise militaire et on doit s'adapter à ça.
Ça, c'est l'avis de notre ministre de la Défense. Écoutez ce qu'en dit l'ambassadeur de Russie à Bruxelles.
We never planned, we do not plan.
Nous n'avons jamais planifié, nous ne planifions pas et nous n'avons pas l'intention d'attaquer, de provoquer une confrontation ou une guerre avec l'OTAN ou l'Europe. Mais malheureusement, nous voyons que les dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN ignorent délibérément ces déclarations. Et je pense que cela est fait pour entretenir l'hystérie anti-russe afin d'obtenir plus de fonds pour la militarisation de l'Europe. Et cela se fait, comme je l'ai dit, au détriment de la population. Et c'est regrettable. Mais permettez-moi de vous donner un chiffre. Les pays de l'OTAN dépenseront d'ici la fin de l'année Et ce, pour une seule année, plus de 1500 milliards de dollars pour les besoins militaires. C'est plus que tous les autres pays du monde réunis. Alors, qui se prépare à la guerre? Et qui veut attaquer qui? Je pense que tout est clair.
Réaction, commandant Engelen. Oui, tout le monde a beaucoup ri, souri, c'était parfois un peu crispé, mais dites-nous ce que vous en pensez. Il ne se prépare à rien.
Ah ben bien sûr que non. De la même manière qu'il ne se préparait pas à envahir l'Ukraine non plus. Je crois que je ne vais pas refaire la même liste que je vous ai fait, que je vous ai fait tout à l'heure. Et puis, il est très habile. Et vous voyez, quand je parlais des guerres cognitives, ici, quand il dit « ça se fait au détriment du citoyen », il invite les citoyens, en fait, à dire « il faut que vous vous opposiez à ce que votre gouvernement fasse plus de dépenses militaires ». Alors, il utilise très habilement aussi des indicateurs que nous connaissons bien, qui sont les budgets. Hein, puisqu'il donne des montants, il oublie de dire que l'industrie de défense russe est en termes de quantité en train de produire aujourd'hui le double de ce que nous sommes capables de produire nous-mêmes. Alors moi, la question n'est pas de savoir combien va me coûter le battle group ou la division supplémentaire que je vais pouvoir mettre en face. C'est simplement de savoir est-ce que je vais être capable d'avoir ces moyens, est-ce que je vais être capable d'avoir les chars, est-ce que je vais être capable d'avoir les avions. Et là, clairement, la balance, évidemment, il se gardera bien de le dire, mais la balance, elle se trouve tout à fait de l'autre côté. Aujourd'hui, la Russie est en train de produire des munitions d'artillerie à une quantité que nous ne pouvons pas égaler. Et vous savez, cet obus russe, même si il est peut-être moins bon technologiquement que le nôtre, mais quand vous allez en avoir 10 qui vont vous arriver dessus, eh bien vous allez peut-être pouvoir vous défendre contre 8, et il y en a 2 qui atteindront...
Ça c'est quand même particulièrement inquiétant, et je suis obligé de revenir vers vous, alors Anne Lamblin, parce que finalement, ce que cet ambassadeur russe a dit, surtout n'investissez pas dans vos moyens de défense, parce que regardez, c'est la preuve que vous voulez attaquer, et on vient d'entendre que, ben non, on aurait tort de faire beaucoup d'investissements là-dedans.
Donc moi, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans la défense, mais je rebondis sur ce que M. Michel a dit. M. Michel a dit qu'il faut investir aussi dans d'autres secteurs, la police par exemple. Et donc pour ça, pour investir de manière équilibrée et proportionnée pour pouvoir répondre à la menace qui est réelle, et c'est une urgence, je le répète, mais il faut aller chercher de l'argent. Et moi, ce que je dis, c'est que cet argent, il ne faut pas aller chercher ça sur le dos des contribuables et des citoyens.
Encore une fois, ce n'est pas un débat sur le budget, si vous voulez bien. Là, on est quand même en train de parler d'une... vraie menace, vous entendez qu'il pourrait produire beaucoup plus que nous, là ça doit quand même avoir un petit côté flippant, honnêtement, pour les uns et les autres. Ce que vient de dire le commandant Engelen, là ça doit quand même nous éveiller un tout petit peu. Jean-Luc Russe et puis Mathieu Michel.
Oui, mais il y a un dicton qui est très vrai, qui dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Et malheureusement, j'ai envie de dire, prépare la guerre. Et quant au budget, je ne suis pas d'accord avec ce que dit Anne, parce que l'Europe, justement, en la matière, permet de débudgétiser ces investissements-là. On n'a pas le choix, il faut les faire. Alors évidemment, ça vient toujours d'une même caisse.
Mais pas au détriment du social ni de l'environnement.
Je n'ai pas dit qu'il faut le faire au détriment, je dis qu'il faut le faire. On n'a pas le choix. Et ne pas prendre cette responsabilité en disant qu'on ne le ferait pas, ou qu'on le fait, si on ne le fait pas, clairement... Vous rentrez dans une logique où d'autres plongent dedans en essayant de nous diviser. Moi, j'ai juste envie que sur ce thème-là, on soit plutôt cohérent, mais aussi qu'on soit consensuel, que les forces démocratiques et politiques puissent tenir un langage de responsabilité et commun.
Mathieu Michel.
Oui, alors moi, il y a quelque chose qui m'angoisse très fort, en fait, c'est le fait que j'ai l'impression que l'ambassadeur, dans quelques minutes, va nous dire que la Terre est plate et que finalement...
Ça, c'était le thème de la prochaine interview.
Et donc, moi, c'est quelque chose qui me sidère, c'est qu'effectivement, quand on voit le niveau de responsabilité de l'ambassadeur et d'autres, et la capacité qu'ils ont à rentrer sans rire dans des mensonges, c'est quelque chose qui est excessivement flippant, parce que c'est la nature des personnes qu'on a en face de nous.
Plus ils nous disent qu'ils ne nous attaqueront pas, plus vous pensez qu'ils vont le faire.
Et surtout, plus je suis inquiet quant à la façon dont ils réfléchissent, la façon dont ils pensent. Et donc, quelque part, nous, en Europe, on a cette naïveté de penser que les gens sont attachés aux valeurs humanistes, ce genre de choses. On est sur un référentiel qui est tout à fait différent. Je tiens vraiment à insister sur un élément. Quand on parle des investissements, les investissements des 5%, c'est bien des investissements en militant dépenses militaires, mais aussi en dépenses de sécurité. Donc ce n'est pas uniquement investir dans des chars et ce genre de choses, c'est vraiment investir dans la sécurité de façon plus générale. Par contre, un élément, peut-être une frustration que je peux avoir, et je termine par là, c'est le fait qu'aujourd'hui, on doit s'interroger si des investissements, on a acheté pendant des F-35 supplémentaires, 110 millions d'euros par F-35, qu'on va recevoir dans quelques années. Je pense qu'effectivement, se concentrer sur les dépenses plus prioritaire et plus urgente immédiatement est quelque chose qu'on devrait vraiment avoir en tête.
On avait évoqué avec l'ambassadeur de Russie la question de la paix, parce qu'on voulait aussi à un moment donné avoir un message positif. Voilà ce qu'il nous a répondu.
Vous savez, ce n'est pas la Russie qui a gelé le dialogue, qui a introduit les sanctions, qui a dit vouloir ruiner votre économie, provoquer votre défaite stratégique. Il est évident que cette politique a échoué et qu'elle nuit à l'Europe. Tout d'abord, l'Europe devrait cesser cette politique de confrontation. Elle devrait soutenir un agenda de paix avec l'Ukraine. Et cela pourrait ouvrir une fenêtre d'opportunité. Mais malheureusement, nous ne voyons aucun signe en ce sens, peut-être à l'exception d'un ou deux pays.
Joseph Rotin, là aussi encore pas mal de messages qui nous disaient ben « Oui, mais enfin, la Russie, elle voit surtout que l'OTAN est en train de se réarmer, de se réorganiser. » On a entendu évidemment l'autre point de vue du commandant Engelen qui nous a expliqué que de l'autre côté, on était en train de bien se réarmer aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre ?
D'abord, la première chose, c'est qu'en 2014, quand la Russie opère la première invasion de l'Ukraine, en prenant la Crimée, une partie du Donbass, etc., à ce moment-là, les dépenses européennes n'ont jamais été aussi faibles depuis la fin de la guerre froide. Donc très clairement, je vois pas très bien où est le point de l'ambassadeur. Au-delà de ça, effectivement, s'il veut avoir la paix en Ukraine, la solution est très simple, c'est que la Russie retire ses troupes d'Ukraine. Pourquoi les Européens, et d'ailleurs, entre 2014...
Il nous a beaucoup expliqué que c'était pour libérer les populations pro-russes qui se trouvent en Ukraine. Je tenais à le dire aussi parce que c'était son argument. Évidemment, voilà, je vous fais part de ce qui a été dit pendant l'interview pour qu'on puisse
réagir. C'est pour ça qu'il a enlevé des enfants et les... Pas lui personnellement.
C'est
sans doute pour ça que la Russie a enlevé des enfants pour les faire adopter de force sur le territoire russe, dans les familles russes. Et d'ailleurs pour pouvoir, le cas échéant, les entraîner, une fois leurs 18 ans atteints, à rentrer en Ukraine. Mais au-delà de cela, pourquoi finalement les États européens ont-ils aidé l'Ukraine alors qu'ils s'en sont finalement assez peu, ils s'en sont globalement abstenus entre 2014 et 2022, simplement parce que les États européens, à un moment donné, ont compris que ça ne s'arrêterait pas à l'Ukraine. La Russie est dans un projet qui est un projet impérialiste et ne se
reconstruction
pas.
De l'État soviétique. Alors je vais poser la question à nos experts, entre guillemets, est-ce qu'on peut faire un pronostic, puisqu'on parle d'une attaque sur un pays de l'OTAN, est-ce qu'on a déjà une idée de celui qui serait la première cible ? D'abord le commandant Engelen sur cette question.
Alors, il y a plusieurs scénarios. Quand on fait de l'anticipation stratégique, il faut travailler avec des futurs multiples, donc il faut regarder plusieurs possibilités. On peut très bien envisager quelque chose qui soit géographique, par exemple, juste une enclave quelque part en Estonie du côté de Narva, et en espérant qu'on reste en dessous du seuil de réaction de l'OTAN, on peut aussi utiliser des moyens qui ne sont pas des moyens cinétiques militaires directs, mais qui produiraient les mêmes effets et qui auraient pour résultat que l'OTAN serait peut-être divisée sur l'opportunité ou non de réagir.
Plutôt vers un pays de l'Est. Joseph Rotin, est-ce que vous pensez que la Belgique, et pardon, c'est une question qu'on a déjà souvent posée, mais je la repose dans le contexte actuel, la Belgique, avec toutes ses infrastructures, et notamment celle de l'OTAN, la Belgique est-elle une cible crédible aujourd'hui?
Alors, tous les pays européens sont une cible crédible. La Belgique, effectivement, est un nœud de transport, est un nœud de communication pour les réseaux électriques, pour les réseaux ferrés, pour les réseaux routiers. Il y a effectivement la question de l'OTAN, il y a des infrastructures critiques et vitales, il y a des ports importants, il y a des raffineries. Comme dans beaucoup d'autres pays, je crois qu'on est tous un peu mis à la même enseigne aujourd'hui. La manière dont les Russes envisagent, et d'une manière générale, dont l'art de la guerre a évolué, fait en sorte que la distance géographique n'est plus nécessairement un problème. Des câbles sous-marins qui sont coupés, c'était des communications internet qui sont coupées, etc., etc. Donc tout ça a une série d'implications. Effectivement, du point de vue des scénarios, la pitchnet dont je vous parlais tout à l'heure, c'est peut-être l'entrée d'une unité russe légère dans les pays baltes, qui permet ensuite de diviser l'OTAN. Ça peut être un tir nucléaire tactique quelque part, ça peut être toute une série de choses.
On va conclure là-dessus, pas pour être anxiogène, mais pour être vigilant. Je pense que c'est fondamental dans les temps qui nous occupent d'avoir un œil attentif à tout ce qui nous occupe. Et on a notre rôle à jouer, vous l'avez dit, notamment en ce qui concerne la cybersécurité. Merci à nos invités de ce soir.